Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la révolution, c'est-à-dire la révolte contre l'ordre voulu par Dieu dans la société, la révolution, c'est d'abord attaquer à la société religieuse, à l'Église. Ce fut la pseudo-réforme, le protestantisme, qui a cherché à détruire l'Église catholique pour la remplacer par une poussière de sociétés humaines qui n'ont plus rien à voir avec l'Église divinement fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Deux siècles plus tard, et par une conséquence logique que les papes ont bien analysée, la Révolution a renversé la société civile. Ce fut la Révolution dite française, suivie de plusieurs autres, qui ont détruit l'ordre social chrétien, fondé sur le décalogue et la loi évangélique, pour le remplacer par l'ordre maçonnique, fondé sur les prétendus droits de l'homme. La Révolution ne s'en est pas tenue là. Elle a continué son œuvre de destruction. Elle s'est attaquée à la cellule de base de la société, à la famille. Et depuis plus d'un siècle, elle sape peu à peu tous les fondements naturels et surnaturels de la famille. En 2017, il y a donc plus de 3 ans, un conférencier dressait ce bilan. L'institution naturelle de la famille a été détruite dans les droits comme dans les faits. Depuis 2015, il y a plus de contrats de Pax en France que de mariages. Quand les gens sont mariés, ils divorcent en masse. À Paris, plus d'un divorce sur 2. Même statistique dans les grandes villes. 200 000 avortements par an au moins. Quand les enfants naissent, plus des 2/3 d'entre eux naissent hors mariage. La PMA détruira ce qui reste de la filiation. Depuis 2017, la situation ne s'est pas améliorée, loin de là. De nouvelles lois civiles ont été votées, détruisant encore plus la famille, notamment en légalisant les unions sodomites. Le pape lui-même a contribué à ce travail de destruction en autorisant la communion aux personnes vivant en situation d'adultère et en parlant d'un droit à la protection légale des couples homosexuels. L'Église catholique, comme la vraie Église, vient au secours de ses enfants. Elle les aide à maintenir de vraies familles chrétiennes. Elle le fait notamment par le moyen de la fête de la Sainte Famille que nous célébrons aujourd'hui. Fête qui fut instaurée par le pape Léon XIII en 1893. Lisons d'abord quelques lignes du pape Léon XIII pour comprendre l'intention de l'Église dans l'institution de cette fête. Personne n'ignore, dit-il, que la prospérité privée et publique dépend principalement de la constitution de la famille. Plus en effet, la vertu aura jeté de profondes racines au sein de la famille, plus aura été grande la sollicitude des parents pour inculquer aux enfants, par l'enseignement et par l'exemple, les préceptes de la religion, plus il en résultera de fruits pour le bien commun. C'est pourquoi, continue le pape, notre Sauveur a voulu naître dans une famille, dans laquelle, dit-il, les hommes puissent tous contempler un exemplaire très parfait de la société domestique et un modèle de toute vertu et de toute sainteté. Telle fut la famille de Nazareth, où se cachait, avant d'apparaître aux nations dans sa pleine lumière, le soleil de justice, le Christ Dieu notre Sauveur, avec la Vierge Mère et Joseph, son très saint époux, qui, à l'égard de Jésus, remplissait l'office de Père. Le pape détaille ensuite comment les parents et les enfants trouvent un modèle dans cette sainte famille. En effet, dit-il, les pères de famille possèdent en Joseph un modèle accompli de vigilance et de prévoyance paternelle. La très sainte Vierge, Mère de Dieu, est pour les mères un admirable modèle d'amour, de modestie, d'esprit de soumission et de fidélité parfaite. Dans la personne de Jésus, qui leur était soumis, les enfants ont un modèle divin d'obéissance à admirer, à vénérer, à imiter. Et le pape concluait par ces mots: on ne saurait concevoir rien de plus efficace et de plus salutaire pour les familles chrétiennes que de leur proposer l'exemple de la Sainte Famille, qui renferme la perfection et le complément de toutes les vertus domestiques. Ces vertus domestiques dont parle le pape sont décrites dans l'épître de cette messe, tirée de la lettre de saint Paul aux Colossiens. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, dit l'apôtre, c'est-à-dire penchez-vous avec une affection sincère sur les misères de votre prochain. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon des offenses, voilà une belle vertu bien utile au foyer. Ces vertus dont vient de nous parler saint Paul sont couronnées par la charité, la reine des vertus. Par-dessus tout cela, continue-t-il, ayez la charité, qui est le lien de la perfection. La charité produira la paix dans les membres de la famille, ce qui est le bien le plus précieux de la famille. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Un petit moyen pour garder la charité et la paix est de savoir dire merci. Aussi saint Paul ajoute cette petite recommandation pratique: et soyez reconnaissants. Après la pratique des vertus, saint Paul n'oublie pas de recommander de s'instruire et même de s'exhorter mutuellement à s'instruire de la religion. Que la parole du Christ, dit-il, demeure en vous avec abondance, de telle sorte que vous vous instruisiez et vous avertissiez les uns les autres en toute sagesse. La parole du Christ, c'est l'instruction religieuse. Concrètement, chers fidèles, est-ce que la parole du Christ demeure en vous avec abondance? Est-ce que vous vous instruisez et vous avertissez les uns les autres en toute sagesse? Les parents lisent-ils, s'instruisent-ils de la religion? En parlent-ils entre eux? En parlent-ils à leurs enfants? Les interrogent-ils sur ce qu'ils apprennent à ce sujet? Après la pratique des vertus, après l'instruction religieuse, l'apôtre parle de la prière. Sous l'inspiration de la grâce, que vos cœurs s'épanchent vers Dieu en chant, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Voilà comment les premiers chrétiens comprenaient la prière: des chants, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels qui s'épanchent du cœur vers Dieu. Enfin, saint Paul termine ses conseils généraux par un principe très simple: c'est d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ en toute chose. En quoi que ce soit que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faire tout au nom du Seigneur Jésus, c'est imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut le faire avec action de grâce, car c'est une grande grâce que notre Seigneur nous fait de le connaître et de l'imiter. Après ces conseils généraux, valables pour tous les membres de la famille, la pratique des vertus, l'instruction religieuse, la prière, l'imitation de notre Seigneur. Saint Paul passe ensuite à des conseils concernant les divers membres de la famille. Nous n'avons pas cette suite dans l'épître de la messe, mais nous l'avions ce matin dans les leçons du bréviaire. Et on peut la trouver dans la Bible ou le Nouveau Testament que toute bonne famille doit avoir à la maison. Saint Paul commence par la mère de famille, comme si elle était la personne la plus importante, étant le cœur, le soleil de la famille. Et il lui dit, « Vous, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » On pourrait trouver ce conseil un peu raide. Sans doute, il y a d'autres conseils à donner aux mères de famille. Mais Saint Paul ici se limite à celui-ci. Il faut se rappeler que dans l'Antiquité, dans le monde païen, la femme était dégradée, comme elle l'est de nos jours dans l'islam, dans les fausses religions. Le baptême a rendu sa noblesse à la femme chrétienne. Les premières chrétiennes pouvaient être tentées d'abuser de cette liberté et en quelque sorte vouloir s'émanciper, comme on dirait de nos jours. Aussi saint Paul leur recommande la soumission à leur mari, mais il précise, comme il convient, dans le Seigneur. C'est-à-dire que la femme est soumise à son mari parce que celui-ci représente pour elle notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la mesure où il représente notre Seigneur Jésus-Christ, il est clair qu'en tout ce qui s'oppose à notre Seigneur, la femme n'est pas tenue d'obéir à son mari. Après l'épouse, saint Paul s'adresse au mari. Vous, mari, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Là aussi, le conseil peut paraître bref et un peu raide. Mais n'est-il pas bien vu et bien utile ? L'homme est facilement égoïste. Il aura vite tendance, après quelque temps, à ne plus se dévouer assez pour son épouse, ne plus s'intéresser suffisamment à elle, à ne plus lui témoigner des marques concrètes d'affection qu'elle attend de lui. Et puis, les années venant, il remarque les défauts de sa femme, et l'homme égoïste peut laisser entrer dans son cœur un peu d'amertume. Il peut s'aigrir, comme dit saint Paul, vis-à-vis de son épouse. Puis l'apôtre s'adresse aux enfants. « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. » Le devoir des enfants, c'est avant tout l'obéissance. L'obéissance chrétienne, pour faire plaisir au Seigneur, car cela est agréable au Seigneur. Enfin, saint Paul termine en recommandant aux parents d'user à bon escient de leur autorité. « Père, ne provoquez pas l'indignation de vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Saint Paul s'adresse au père qui a la plus forte autorité. Les parents doivent user de leur autorité pour encourager les enfants, pour les éduquer, c'est-à-dire selon l'étymologie, pour les faire grandir. Nous passerons sur l'Évangile qui contient implicitement un grave conseil aux parents. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ?» Les parents doivent laisser à leurs enfants la liberté de choisir leur vocation. Ils peuvent certes encourager, mais il y a un domaine dans l'âme de leur enfant qui ne leur appartient pas. Une famille chrétienne qui imite la Sainte Famille, c'est le plus grand bonheur possible ici-bas. C'est une anticipation du bonheur du ciel, puisque Jésus nous a adoptés pour nous faire entrer dans sa famille céleste. Aussi la messe d'aujourd'hui commence par une invitation à la joie adressée aux parents qui ont fait leur devoir. Exultat gaudio pater justi, gaudeat pater tuus et mater tua. qu'exulte le Père du juste, que son Père et sa Mère se réjouissent. Le Père et la Mère du juste, c'est d'abord Saint Joseph et la Sainte Vierge, mais c'est aussi tous les parents qui les imitent. Demandons donc pour toutes les familles chrétiennes la grâce d'imiter la Sainte Famille, afin de goûter une vraie joie ici-bas, avant de goûter la joie éternelle en rejoignant la Sainte Famille au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.